on va commencer, si vous voulez bien. Alors, bienvenue à ce temps des élèves des ETS 2024. Aujourd'hui, pour cette séquence, on a choisi de vous parler de justice climatique et plus particulièrement des stratégies et des outils qui sont mis en œuvre pour construire un futur équitable et durable. Et du coup, pour animer ce temps des élèves, je vous présente Sarah, qui est au bout de la table, et du coup, moi, Jeanne, qui sommes élève administratrice territoriale de la promotion Gerti-Archimède. Donc, on va animer ce temps des élèves. Et puis, on a le plaisir d'accueillir, du coup, Sarah, Maria et Marion, que je vais présenter. Donc, Sarah, Maria, Amou, bienvenue et merci d'avoir participé à ce temps des élèves. Du coup, vous êtes chargée de projet, spécialiste de la justice climatique chez GetUp, qui est une association qui œuvre en faveur de la justice sociale pour les jeunes dans les quartiers populaires. Et vous avez produit ce rapport donc, sur l'injustice climatique dont nous allons parler pendant ce temps des élèves. Et je vous invite tous d'ailleurs à le consulter à la librairie et à le télécharger sur Internet si vous voulez le lire pour plus tard. Donc, bienvenue Sarah Maria et merci. Et puis, on accueille aussi Marion Alfaro. Bonjour, qui est DGA du Pôle Aménagement et Développement Durable du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et donc, vous avez une formation d'ingénieur et aujourd'hui, vous allez nous illustrer ce que font les collectivités pour la justice climatique. Et avant de lancer du coup, ce temps des élèves, Sarah, je te laisse du coup, nous présenter le contexte et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet-là aujourd'hui.
Merci Jeanne. Donc effectivement, ce sujet traite du lien entre le changement climatique et les inégalités. C'est un sujet qui est de plus en plus étudié, de plus en plus documenté. C'est dans ce contexte que le concept de justice climatique a émergé et il est reconnu notamment dans le préambule de l'accord de Paris. Pourtant, dans la réalité, c'est un concept qui reste difficile d'appréhender et dont les institutions finalement peinent à utiliser dans l'action qu'elles mènent, en l'occurrence sur les territoires. Donc c'est un peu ce que rappelle le rapport de GetUp suite à une enquête qui a été menée auprès de 1000 jeunes des quartiers populaires et dont Sarah Maria nous parlera un petit peu. Donc nous, on a souhaité aujourd'hui pouvoir vous proposer ce temps de réflexion avec nos deux intervenantes pour bénéficier à la fois d'un regard militant et critique et de pouvoir le mettre en perspective aussi avec un regard plus institutionnel d'une action publique locale. Donc, dans une première partie, nous allons essayer de voir comment se traduit concrètement l'injustice climatique pour pouvoir la définir à travers des exemples. Puis, nous essaierons aussi de voir ce qui est les actions qui sont menées et les limites qu'elles présentent. Et puis, dans un troisième temps, comment est-ce qu'on peut dépasser ces limites pour aller vers une écologie plus populaire et plus inclusive. Donc, si vous voulez bien, on va commencer donc, dans cette première partie sur l'injustice climatique. Qu'est-ce que c'est et comment elle se traduit concrètement? Donc, Sarah Maria, est-ce que vous pouvez, en partant de la réalité que vous connaissez dans les quartiers populaires, est-ce que vous pouvez nous dire comment elle se définit, selon vous, l'injustice climatique?
Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je travaille chez GetUp, qui est une association qui œuvre pour plus de justice sociale dans les quartiers populaires. On a réalisé cette enquête de plus de 2 ans et demi sur le terrain, sur une multitude de quartiers populaires à travers le territoire français, mais aussi les Outre-mer, pour plus d'exhaustivité. Et on a choisi de théoriser l'injustice climatique à partir de 4 principes qui étaient omniprésents dans les réponses des jeunes. D'ailleurs, on a réalisé une enquête complémentaire avec l'Ipsos pour être sûr que nos résultats étaient... Parfait, et l'enquête d'Ipsos les a confirmés. La première inégalité qui est la plus présente, ce sont les inégalités d'exposition aux pollutions et aux nuisances. Par exemple, nous, en Seine-Saint-Denis, à Porte de Bagnolet, la bétonisation avoisine les 85%. Alors, l'urbanisation, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose de normal, mais quand elle est cumulée avec d'autres inégalités sociales, de discrimination, etc., les impacts sont décuplés. Par exemple, à Saint-Denis aussi, qui est quand même un assez grand lieu de vie, autour des hôpitaux, autour des groupes élémentaires et scolaires, on a des barrettes autoroutières qui sont énormes et qui continuent avec l'installation du Grand Paris. Et ça découle sur la deuxième inégalité, qui est l'inégalité de prévention des risques. parce que les habitants ne sont pas forcément sensibilisés à quels risques est-ce qu'ils encourent avec la construction de tant d'infrastructures routières, de nouvelles usines, etc. Et au-delà de l'inégalité de prévention des risques, il y a aussi l'inégalité en fait, de moyens pour pouvoir se soigner. La Seine-Saint-Denis, il me semble que c'est le huitième contributeur à la sécurité sociale en France, et pourtant c'est le premier désert médical français, avec 93% du territoire qui est mal desservi en médecins de proximité. Et ça, c'est un constat qui est aussi partagé avec les habitants de la ruralité, si je puis dire, et aussi les habitants des Outre-mer, qui sont aussi des territoires qui sont historiquement délaissés. Et ça met en exergue qu'en fait, on a plus de liens qu'on ne nous laisse penser avec les habitants de la ruralité et des Outre-mer. Et c'est aussi ce travail qu'on a voulu mettre en relief. La troisième inégalité qui a été la plus mentionnée, c'est l'inégalité d'accès aux bénéfices de l'environnement. On a posé la question à ces 1000 jeunes. Quelle est la discrimination environnementale que vous percevez le plus au quotidien ? Et assez étonnamment, même pour nous, la réponse à 100%, c'était l'accès à une alimentation saine. Alors, les jeunes ne nous disaient pas qu'ils voulaient manger bio, sain et des légumes absolument tous les jours. Ils nous disaient qu'ils aimeraient pouvoir choisir, ils aimeraient avoir ce choix. Et aujourd'hui, le choix n'existe pas dans ces territoires. La deuxième réponse, c'était à 50% les espaces verts. Il y a une demande pour avoir accès à ces espaces verts. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont assez limités, et aussi de par l'urbanisation extrême en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement dans toute l'agglomération parisienne. Et enfin, après toutes ces inégalités, la dernière, c'est l'inégalité d'accès à l'engagement. Pourquoi ? À 53%, les habitants nous répondaient qu'ils ne s'engageaient pas par un manque de temps. Donc, ça aussi, c'est assez commun avec l'ensemble des Français. Par contre, les autres raisons, c'était une défiance vis-à-vis des institutions qui les empêchait de pouvoir se mobiliser comme, disons, le reste des Français lambda ferait, c'est-à-dire à travers des manifestations. Disons qu'il y a aussi une défiance vis-à-vis de la police, un inconfort avec la présence policière qui les faisait nous dire qu'ils ne se sentaient pas légitimes et même en confiance d'être dans ces espaces. Et la seconde, c'est le manque de dispositifs de proximité pour s'engager. Et enfin, la dernière, c'était, disons, qu'ils se sentaient engagés à leur échelle, mais que leur engagement n'était pas légitimé s'ils n'étaient pas, disons, dans une association ou dans un parti politique. Voilà.
Merci, Sarah-Maria. Marion, est-ce que... Vous pouvez nous dire quelle lecture vous faites d'un point de vue institutionnel de l'injustice climatique et qu'est-ce que ce concept peut apporter de plus aux collectivités dans l'action publique sur les territoires ?
Oui, moi il me semble que quand on travaille ces politiques de transition écologique et de résilience, il y a deux aspects à prendre en compte. Il y a celui de l'exposition, effectivement, on l'a dit, des habitants et des habitantes à un certain nombre de sujets, tels que le bruit, la pollution de l'air, etc. Mais, et ça, c'est une partie qui est assez bien documentée, qu'on sait, enfin, l'effet des lieux de chaleur urbain, on sait cartographier et diagnostiquer la réalité de ce territoire. Mais ce qu'on approche beaucoup moins, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est la question de la vulnérabilité des gens qui sont exposés à ces nuisances-là. J'étais d'ailleurs très contente d'entendre le terme ce matin dans le discours du vice-président de la métropole de Strasbourg autour de cette question des vulnérabilités, qui, elle, me semble plus difficile à appréhender et, pour le coup, moins bien diagnostiquée par nos institutions. Et qu'est-ce que j'entends par vulnérabilité ? C'est plusieurs choses. C'est la possibilité d'éviter, par exemple, l'exposition à une nuisance. On cite souvent ce chiffre assez éloquent, c'est-à-dire que pendant le confinement de 2020, 20% de la population parisienne n'était pas à Paris, 0,6% de la population de la Seine-Saint-Denis n'était pas en Seine-Saint-Denis. C'est quand même assez éloquent sur la capacité à éviter une crise, à éviter une situation. L'autre vulnérabilité, c'est la possibilité de se mettre à l'abri. Et là, je pense à tous les sujets de logement et de ce qu'on appelle aujourd'hui des bouilloires thermiques en cas de canicule. C'est quand l'espace public n'est même plus fréquentable parce que beaucoup trop chaud, vous n'avez pas de zone de refuge, d'endroit où vous réfugiez, parce que votre logement lui-même est source de très forte de nuisances de ce côté-là. Et l'autre vulnérabilité encore, c'est, pour reprendre le éviter, réduire, compenser, c'est la question de l'accès aux soins. Une fois qu'on a été exposé, une fois qu'on est dans des situations de santé dégradées, quel accès aux soins on a pour soigner cette exposition ? Un autre aspect aussi qui me semble important dans cette question de vulnérabilité, c'est la dépendance qu'on peut avoir à certains services ou certaines infrastructures ou certains services publics. Là, je pense par exemple à l'usage du transport en commun sur notre territoire de la Seine-Saint-Denis, puisque on l'a diagnostiqué, on l'a cartographié, on l'a chiffré. On est le seul territoire d'Île-de-France où la fréquentation dans les transports en commun est supérieure à celle d'avant le Covid. Et c'est souvent ce qu'on nous dit dans les politiques de transport à l'échelle régionale. On nous dit « mais il y a moins de monde qu'avant ». C'est vrai en moyenne, mais c'est faux sur notre territoire. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui sont extrêmement dépendants de ces réseaux-là pour travailler, pour étudier, pour se déplacer, etc. Et dont la spécificité n'apparaît plus dans la politique publique quand elle est prise à trop grande échelle. Donc voilà, toutes ces questions-là, si on ne les approche pas, si on ne les diagnostique pas, si on ne les étudie pas, on risque de passer à côté complètement de politique juste. On passe à côté de cette question de justice sociale qui est vraiment essentielle pour accompagner les politiques de transition écologique, puisqu'on va créer de l'incompréhension, on va créer de la non-adhésion, on va créer du rejet aussi par rapport à certaines politiques de transition écologique. Et voilà, et on peut tirer le fil jusqu'au bout d'une crise démocratique aussi autour de ces questions-là. Donc moi, je pense que c'est vraiment essentiel de toujours se poser cette question-là quand on met en place des politiques de transition écologique. Et il y a 2 ans, on avait d'ailleurs confié un projet collectif à des élèves de l'INET pour cartographier nos vulnérabilités. Un projet qui est extrêmement intéressant et qui continue d'alimenter et d'irriguer nos réflexions sur la question.
Merci. Du coup, on comprend bien que l'injustice climatique, elle commence par la méconnaissance des vulnérabilités des populations les plus précaires face aux effets du changement climatique. Et du coup, le cumul de ces inégalités économiques et sociales qui aggravent de fait les effets du changement climatique. Mais du coup, on se demandait aussi quelle articulation vous faisiez entre toutes ces urgences sociales, économiques et écologiques, et notamment parce que dans le rapport de GetUp, le changement climatique, il est cité comme la 8e préoccupation des jeunes dans les quartiers populaires, derrière le pouvoir d'achat et derrière la santé. Du coup, comment vous faites, Marion, au sein de votre collectivité pour appréhender ces urgences sociales, pour les prioriser d'une certaine manière, et comment, quelles actions concrètes sont menées pour traiter l'ensemble de ces injustices ?
Moi, je pense que quand des gens nous disent que leur première préoccupation, c'est la santé, c'est un sujet écologique. C'est un sujet éminemment lié aux questions de changement climatique et de transition écologique. On ne peut pas différencier et séparer ces questions-là qui sont imbriquées très fortement. Et c'est pour ça que moi, je préfère parler de santé environnementale aussi sur ces questions-là, parce que ça permet d'englober l'ensemble de ces aspects-là. Et ça permet aussi de construire un discours auquel on adhère plus facilement. Je dis souvent que de parler de taux de PM2.5 dans l'air, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde. Par contre, parler de l'asthme de votre petit frère, là, ça résonne. Là, ça prend une dimension d'adhésion et beaucoup plus forte, à mon sens. Et ça peut être un vecteur de concertation et de dialogue avec la population très porteur. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer comme ça et séquencer. Enfin, quand Sarah Maria disait 100% des jeunes parlent avant tout des questions d'alimentation, c'est une question écologique, c'est une question climatique, c'est une question liée à ces bouleversements. Là, et on tire tous les fils du pouvoir d'achat, de la santé, etc. Donc, il faut accepter l'approche très systémique de ces questions-là. Pour rebondir sur la question de l'alimentation, nous, on a mis en place au département un chèque alimentaire durable qui s'appelle la carte Vitalim, qui est donc un chèque de l'argent qui est donné à des populations les plus précaires pour acheter à manger, très concrètement, tous les mois, avec des bonus si vous allez dans un certain nombre de magasins plutôt labellisés, si vous achetez des produits frais, si vous achetez du vrac. Et ce qu'on a constaté, c'est que toutes ces populations extrêmement précaires, elles ont toutes déclenché ce bonus-là parce qu'elles avaient la possibilité d'aller dans ces magasins-là, elles avaient la possibilité de s'acheter ces produits-là, et que donc, c'est pas qu'elles ne le faisaient pas parce qu'elles n'ont pas conscience de l'impact que ça a sur leur mode de vie, sur leur santé, etc., mais c'est parce qu'elles ne pouvaient pas. Ce programme, il s'accompagne aussi de beaucoup d'éducation, mais d'ateliers autour de pratiques de cuisine, d'échanges, qui, je pense, est un très fort vecteur de lien social et qui me semble aussi important dans ce programme-là. Tout ça pour dire que ce chèque alimentaire, il est super. Il démontre beaucoup de choses. La limite de ce programme-là, c'est sa reproductivité. C'est un programme qui coûte quand même de l'argent. On a le soutien de l'État pour cette expérimentation, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas le faire à l'échelle du territoire et à l'échelle de tous ceux qui en ont besoin sur notre territoire et au-delà. Là, on touche quand même assez rapidement une limite de ce genre d'action, mais pour autant, elle a un effet très démonstrateur, plaidoyer sur nos sujets. Puis peut-être je voulais aussi évoquer une autre limite qu'on peut rencontrer dans ces questions-là. C'est la question de nos façons de travailler, nous, chacun dans nos services, dans nos domaines. Et ça, c'est un sujet qu'on s'emploie à détricoter avec la DGA Solidarité du département qui est ici, Ève Robert. De faire parler mes ingénieurs avec ces travailleurs sociaux, c'est là où les choses prennent tout leur sens, l'un pour l'autre. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un vrai plaisir aux agents à travailler ensemble avec des gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer et ça leur fait découvrir une nouvelle facette de leur métier. Et là, on commence à faire émerger des projets beaucoup plus imbriqués, mais c'est pas facile parce qu'on parle pas tous le même langage, on n'a pas tous la même culture, mais ça crée des choses vraiment très, très précieuses.
Et du coup, pour vous, Sarah Maria, avec votre regard et votre point de vue de chercheuse et de militante dans les quartiers populaires, quelles sont les limites de l'action publique que vous pouvez constater ?
Déjà, la non-prise en compte de la dimension sociale, c'est aussi ignorer la dimension structurelle qui fait en partie que les mêmes problèmes se répètent en boucle. D'ailleurs, le dispositif Vitalim, il est super. La seule limite et le seul défaut qu'on y trouve, c'est qu'il s'arrête. C'est aussi comme ça que... Là se trouve la limite, mais là où on pourrait davantage travailler ensemble, c'est que ce dispositif, bien que nous, on n'en avait pas connaissance jusqu'à assez récemment, on voit l'impact et on voit comment ça aide des milliers, parce qu'il me semble que c'était sur en milliers de personnes. Oui, c'est ça. Que ça change drastiquement les habitudes, puisque même après l'interruption de ce chèque, les pratiques d'alimentation, elles seront impactées et influencées durablement. Donc là où on peut travailler conjointement, c'est aussi faire du plaidoyer à ce sujet, mettre au courant les habitants pour qu'eux aussi revendiquent ce droit, ce besoin, et faire remonter ces revendications. Selon notre enquête, comme vous le disiez tout à l'heure, le changement climatique, ça arrive en 8e préoccupation. Mais par contre, la première, c'était le pouvoir d'achat. La seconde, c'était l'état du système social. Et comme on disait, tous ces sujets, en fait, s'imbriquent avec l'écologie, comme pour le reste des Français, d'ailleurs. L'écologie, pour les habitants de quartier, en fait, elle est sous-jacente à l'ensemble de ces problématiques. Et la sensibilisation qui est nécessaire dans les quartiers populaires, c'est plutôt à l'échelle de comment la rattacher au reste de ces sujets. Et donc, les trois qu'on a analysés comme étant le plus pertinent à traiter pour ensuite imbriquer le sujet de l'écologie, c'est l'alimentation, en premier lieu, évidemment. Ensuite, c'est l'emploi, l'insertion professionnelle, notamment pour les plus jeunes, mais aussi pour ceux qui n'ont pas fait de longues études ou qui n'ont pas eu accès aux études. C'est un fort vecteur d'engagement et il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là et surtout dans les métiers de la transition écologique. On travaille beaucoup avec GetUp en ce moment, disons, dans les backstage, pour faire émerger des tendances et voilà, les nouveaux métiers de la transition et sensibiliser à l'échelle des quartiers populaires et aussi les autres associations de quartiers populaires qui n'ont pas forcément accès à cette information. Et enfin, le troisième pan, et ça rejoint aussi ce qu'on disait, c'est la santé. La santé environnementale, et là-dedans, on regroupe aussi la précarité énergétique, l'habitat insalubre, qui sont aussi les premières préoccupations à l'échelle du quartier. On a posé la question des discriminations environnementales et des discriminations tout court. Et à la question des discriminations, la première réponse était l'insalubrité des espaces publics, du logement et la précarité énergétique. Je pense que c'est quand même assez marquant en sachant que les jeunes qu'on a interrogés, ils avaient entre 14 et 28 ans et que même les plus jeunes de 15-16 ans nous parlaient de ce sujet. Donc c'était assez édifiant. Il y a aussi un sujet qui est interne aux associations, comme je vous le disais juste avant, c'est que nous aussi, on a peut-être un peu de mal à dialoguer ensemble. Et c'est aussi là la force de GetUp, c'est que de base, on est, et jusque maintenant, nous sommes une association qui fait de la justice sociale et qu'on n'a pas pour but de devenir une association qui fera 100% du climat ou de la justice climatique, parce que c'est là aussi un objet de réponse au fait que les sujets s'imbriquent tous les uns dans les autres. Et donc, on essaye de faire ce travail, de dialoguer avec les associations qui font 100% de l'éducation populaire, 100% qui luttent pour un habitat moins précaire, les associations de maraude, etc. Et voilà, il y a vraiment une nécessité aussi de renouveler les récits et de renouveler les représentations. Alors, pas forcément que les représentations en termes de visage, mais on a aussi besoin de plus de cerveaux qui nous ressemblent pour avoir accès à une transition juste, durable et qui imbriquera tous ces sujets.
Merci Sarah Maria. Donc là, on vient de le voir, effectivement, il y a encore beaucoup à faire pour avoir une approche globale de ce sujet et pour réduire l'impact du changement climatique sur les populations vulnérables, et un travail qui va embarquer les acteurs associatifs, mais aussi les institutions que sont notamment les collectivités locales. Alors, du coup, on peut se poser la question de comment faire pour repenser l'écologie et de faire en sorte que cette écologie soit plus inclusive et soit plus à l'écoute aussi des catégories plus populaires. Le rapport de GetUp dont vous nous avez parlé nous invite à nous interroger sur deux points. C'est déjà comment redonner la parole aux jeunes, comment leur redonner du pouvoir d'agir, et dans le même temps, comment leur faire une place finalement dans cette écologie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de leur demander leur avis, il faut aussi leur faire une place. Sarah Maria, dans votre rapport, vous montrez que les jeunes s'engagent déjà pour l'écologie, parfois sans le savoir, mais vous allez nous le dire. Quelle forme prend cet engagement, et est-ce qu'aujourd'hui il est reconnu, cet engagement ?
Merci beaucoup. Dans l'enquête qu'on a menée, on a eu de nombreuses statistiques, et l'une des autres qui était les plus marquantes, c'était 70% des jeunes se considèrent engagés. Et quand on leur demandait sur quoi est-ce que vous vous engagez, le changement climatique, évidemment, il arrivait longtemps après, mais la première réponse, c'était l'humanitaire, la solidarité internationale. La seconde, c'était l'éducation, il me semblait, et la troisième, c'était la culture. Quand on creusait un peu, parce que cette enquête, c'était aussi un travail de sensibilisation sur le terrain, mine de rien, on leur demandait « qu'est-ce que vous faites dans ces projets d'humanitaire ?» Ils nous disaient « on va planter des arbres, on va faire de l'agroécologie, on va creuser des puits. » Et quand on leur demandait « pourquoi est-ce que vous engagez finalement pour l'écologie mais pas dans votre territoire ?» La réponse systématique, c'était « c'est eux qui subissent le plus les conséquences du changement climatique. » Donc à ça, nous, on voit trois tendances. C'est que les jeunes n'ont aucun mal à s'engager pour la justice climatique et la lutte contre les impacts du changement climatique quand les effets sont palpables dans l'espace. Aujourd'hui, en quartier populaire, mais aussi dans le reste de la France, là où les impacts du changement climatique sont les plus graves, c'est difficilement palpable parce que ça relève surtout de la pollution de l'air aujourd'hui. Et ça ne se matérialise pas pour eux. Par contre, quand on parle des pays des Sud, par exemple, c'est de la sécheresse, c'est le manque d'accès à l'eau potable, c'est des maladies, etc. Donc pour eux, c'est plus palpable. Le second pan qu'on voyait à ça, c'est l'héritage. La seconde raison pour laquelle ils sont plus promptes à s'engager à l'étranger, c'est aussi l'héritage culturel. Parce que, disons que les habitants dans les quartiers populaires, mais aussi dans les ruralités. En fait, c'est des communautés. Ça veut dire qu'ils sont déjà, en quelque sorte, engagés, ils sont formés en communauté, ils sont organisés. Il y a déjà des réseaux d'entraide qui sont existants. Et c'est là aussi un point important à soulever, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'essayer de créer à chaque fois des réseaux, de créer des nouveaux moyens de rassembler, etc. Parce que les lieux existent et les communautés existent. Et cet héritage culturel de l'engagement, en quelque sorte, c'est une dynamique qui est intrinsèque aux quartiers populaires, aux outre-mer et à la ruralité. Et oui, et donc il y a aussi ce souci, disons, de représentation qui fait qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas légitimes à s'engager sur le territoire ici en France. Il y a seulement 30% qui nous disaient se sentir représentés, les 70% restants nous disaient que non. Et ce qui est marrant, enfin marrant en quelque sorte, c'était quand on leur demandait qui est donc la personne à laquelle tu t'identifies le plus, quand on parle de justice climatique, on nous disait Greta Thunberg. Greta Thunberg qui est une jeune femme qui ne parle pas français, qui n'est pas française. Et pourtant, c'est la figure à laquelle ils se sentaient le plus, disons, identifiés. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils nous disaient, c'était que ça n'était pas de l'engagement performatif. Les vidéos, les photos qu'ils voyaient de Greta Thunberg, c'est des vidéos d'elle qui a les bras dans le dos, des menottes, etc. Et pour eux, c'était vraiment un engagement au sens premier du terme. C'est de l'engagement qui rapporte, disons, de l'émotionnel aussi, qui est un fort vecteur d'engagement. L'indignation, c'est un vecteur d'engagement dans les quartiers populaires et pour ses habitants. Voilà. Le deuxième point que je pense être intéressant à soulever, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, on doit absolument changer de terme parce que le prisme sur lequel s'est construit l'écologie, malheureusement, en France ces dernières années, c'est beaucoup sous l'injonction, c'est beaucoup sous les petits gestes et le manque, disons, d'alerte au niveau des institutions et des premiers pollueurs. Et à travers, disons, une approche assez technique, ce qui met de fait ces habitants de côté. Et là, désolée aux étudiants, j'espère que vous n'allez pas vous fâcher avec moi, mais pour nous, à la fin de ce rapport, on a établi des recommandations, et l'une des recommandations qui, à notre sens, la plus essentielle, c'est, disons, c'est former dès le départ, c'est-à-dire former les agents, les futurs agents territoriaux, c'est intégrer des étapes, disons, des épreuves au concours qui seraient, en fait, à l'intersection des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux, pour pouvoir, en fait, traiter ce problème dès le début, pour qu'il n'ait pas à le traiter, disons, sur le tas, et qu'il soit déjà formé à ces enjeux. Le rapport peut être une bonne base pour cela. Et aussi, sur le territoire, c'est de voir les associations comme des partenaires privilégiés. Les associations ne sont pas toutes hostiles à recevoir les conseils départementaux, à recevoir les agents territoriaux, etc. Et c'est aussi un très bon moyen, disons, de s'insérer dans les communautés et de comprendre quels sont les vrais besoins. Parce qu'aujourd'hui, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a encore assez de défiance et une vision assez négative des pouvoirs publics. Et donc, s'insérer dans les communautés à travers les associations, c'est déjà dialoguer avec ceux qui les connaissent le mieux. Et d'ailleurs, en disant ça, ce n'est pas seulement les associations qui font de l'écologie et de la justice climatique. C'est travailler avec toutes les associations, celles qui font de l'éducation populaire, celles qui travaillent avec les mamans dans les quartiers, les syndicats de papas qui se retrouvent après le travail parce qu'ils se plaignent, disons, de l'état de l'espace public dans les quartiers populaires, etc. Tous ces gens, ce sont des foyers à idées, sincèrement. Et on a beaucoup travaillé avec eux tout le long. Et d'ailleurs, rencontrer ces associations, ça peut être juste pour prendre un café. C'est pas obligé de se rencontrer directement et d'imaginer de grands projets et de grandes mises en commun. Et d'ailleurs, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis fait très bien ce travail. Je dis pas ça parce qu'ils sont là. ils sont vraiment à... En fait, c'est une approche, disons, qui n'est pas descendante. Ils vont à la rencontre des acteurs de terrain et créer des espaces pour les acteurs de terrain, pour leur laisser un peu de libre champ pour faire ces projets, puisque ce sont les plus à même de savoir ce dont les habitants ont besoin, et on fait remonter ces besoins. Et je pense que c'est un très bon fonctionnement qui pourrait être dupliqué selon aussi les problématiques que les autres territoires rencontrent. Et on s'appuie aussi beaucoup sur les recommandations du CESE, dont l'une, qui est aussi une qu'on trouve la plus pertinente, c'est de systématiquement intégrer dans l'évaluation des impacts, enfin, de systématiquement mener une évaluation sur les 20% des Français les plus précaires, sur toutes les nouvelles mesures et politiques environnementales qui pourraient être menées à être mises en place, parce qu'aujourd'hui, on le voit par exemple avec les ZFE, Il y a plein de limites qui n'avaient pas été analysées jusqu'à ce qu'elles soient en fait implémentées. Et disons que ça freine le travail. Donc pourquoi ne pas le faire en amont? Et voilà, désolée, j'ai...
Non, c'était très bien. Merci Sarah-Maria. Et justement, Marion, j'aimerais que vous puissiez réagir à ces recommandations. Effectivement, dans le rapport, il y a encore plus de recommandations, mais voilà, ces premières pistes de réflexion, qu'est-ce que ça vous inspire?
Déjà, pour rebondir sur ce qui a été dit sur... moi, je crois vraiment que le futur de la fonction publique, de manière générale, c'est cette question d'intersection des enjeux sociaux et environnementaux. C'est ces profils-là qui feront changer les choses, et c'est ces profils-là qui porteront des politiques publiques nouvelles et qui répondent vraiment aux enjeux auxquels on fait face. C'est quand même fou de se dire que dans sa vie, un technicien qui sait, par exemple, isoler un bâtiment, isoler un logement, peut ne jamais croiser quelqu'un qui s'occupe d'une famille dont les enfants ont des maladies chroniques dues à l'insalubrité du logement. Les formations sont faites, les parcours, les carrières sont faites de telle façon qu'ils peuvent ne jamais se rencontrer. C'est quand même un peu dingue en fait quand on y réfléchit. Je pense qu'il faut être très modeste vis-à-vis de cette question-là, de dire comment on fait tous ces ponts-là, comment on crée toutes ces connexions qui aujourd'hui ne se font pas. Il n'y a aucune facilité qui est mise en place pour faciliter ces ponts-là. Donc il y a, à mon avis, beaucoup, beaucoup de choses à construire là sur la question de la formation, sur la question des carrières, sur la question de comment on s'assure d'avoir entendu parler de ça une fois dans sa vie, comment on a parlé encore une fois à un travailleur social, comment quand on fait de la voirie, on a quand même un minimum en tête qu'il y aura des gens, des usagers dessus. Enfin voilà, toutes ces questions-là. Une autre réaction que j'avais par rapport à la lecture du rapport de GetUp et puis de ce qui a été dit, c'est que le rapport se centre sur les quartiers, les jeunes des quartiers populaires. On parle beaucoup d'eux, on ne parle pas beaucoup avec eux quand même. Ça, c'est quand même assez manifeste. Ce qu'on constate aussi, nous, sur notre territoire, c'est des pratiques informelles qui se mettent en place en dehors de toute institution. Je reprends l'exemple du confinement. On a eu dans des quartiers de l'aide alimentaire qui a été mise en place spontanément par les habitants entre eux, du portage de repas aux personnes isolées, etc. En dehors de toute structure, en dehors de tout radar, en dehors de tout ce que vous voulez, c'est venu spontanément, ça s'est fait, etc., en s'appuyant sur la communauté du quartier ou d'autres types de communautés, mais c'est venu très spontanément. Et ça, c'est un outil de résilience très forte sur le territoire, et c'est des pratiques que nous, institutions, on ne sait pas très bien appréhender, parce qu'on ne sait pas très bien parler à quelque chose qui n'est pas organisé selon nos critères et nos formes juridiques classiques d'une association, d'un collectif, etc. On sait beaucoup moins bien parler avec cette solidarité informelle et tout ce qui se passe autour de ça. Je fais aussi le lien... et encore une fois, c'est quand même la base de la résilience d'un territoire. On cite souvent... Je pense que tout le monde a entendu parler de cette étude post-Fukushima où ce qu'on a montré, c'est que deux villages qui avaient été exposés de la même façon à ce qui s'était passé, l'un avait un taux de mortalité beaucoup moins important que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un tissu associatif et il y avait de l'entraide et des communautés et des liens sociaux beaucoup plus forts dans ce village-là. Donc ça, c'est vraiment très clair. Et comment nous, puissance publique, on peut... comment on peut créer les conditions de l'informel, en fait, c'est assez contradictoire, nous qui sommes pour le coup très formels et très dans des cases. Comment on crée pourtant les conditions de l'émergence de ces pratiques-là? Comment on s'assure que le lien social puisse s'épanouir, se créer, se développer, sans le contrôler, sans le diriger, sans l'enfermer? C'est à mon avis très 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 compliqué, très subtil comme approche. Il y a une étude récente aussi menée par l'APUR, l'Atelier parisien d'urbanisme, sur la force du lien social en Île-de-France, et qui a montré, il y a une très grande corrélation, plus vous êtes... socialement et culturellement, avec du potentiel culturel et du potentiel économique, plus vous avez de liens sociaux, sauf en Seine-Saint-Denis, évidemment, parce que c'est toujours, on est toujours un territoire un peu d'exception, avec une population plus précaire que le reste du territoire, mais pourtant des liens sociaux extrêmement forts, qui compensent peut-être aussi parfois le retrait du service public sur le territoire, et qui est une force sur laquelle il faut s'appuyer. Et peut-être dernière chose que je voudrais citer, un exemple de ce qu'on essaye de mettre en place. Encore une fois, je veux vraiment dire la modestie qu'on a vis-à-vis de tous ces sujets-là. On a mis en place ce qu'on a appelé une ado-académie, c'est-à-dire que c'est un programme de mise en capacité, on va dire, des élèves de 5e adressés aux élèves de 5e volontaires de nos collèges. On les a formés aux questions de nutrition, aux questions des bienfaits de la activités sportives, etc., pour en faire des ambassadeurs auprès de leurs petits copains, de leur famille, de tous les gens qu'ils rencontrent dans leur vie. En tout cas, de leur donner les clés. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Ça prospère, ça fleurit, ça prend d'autres formes que celles qu'on avait pu imaginer. Mais on essaye quand même de leur donner quelques clés pour répondre à tous ces défis-là.
Merci beaucoup à toutes les deux, Sarah Maria Amou et Marion Alfaro, pour vos témoignages sincères et inspirants. On comprend bien du coup que la justice climatique, c'est un sujet qui transcende toutes les politiques publiques, et grâce à vous, j'espère que c'est le cas aussi pour vous, mais on comprend aussi un peu mieux comment le prendre en compte au quotidien, dans nos pratiques, quels que soient les sujets sur lesquels on travaille.
Merci beaucoup. Je crois qu'on va tous suivre attentivement les prochains travaux de l'association Get Up et les actions que vous allez mener. Merci en tout cas à nos deux intervenantes aujourd'hui. Merci à Linette et au CNFPT de nous avoir permis de faire ce temps. Et merci à Gaspard aussi de nous avoir aidé à construire ce rendez-vous des élèves. On vous souhaite une très bonne après-midi aux ETS.